Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le pape a envoyé un message samedi 29 mars aux missionnaires de la Miséricorde à l'occasion de leur pèlerinage jubilaire, les encourageant à être attentifs dans l'écoute, prêts à accueillir et à accompagner ceux qui veulent renouveler leur vie et revenir au Seigneur. Les détails dans quelques instants avec la page consacrée à la semaine du pape. L'actualité de l'Église nous conduira également à Saint-Thomé et Principe et au Nigeria. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne le Nigeria, la Guinée et la République démocratique du Congo, entre autres. La rubrique « Invité du jour » est consacrée au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la semaine du pape présentée par Fabrice Baguendekere.
Eh bien, c'est la première semaine de convalescence du pape François, mais bien pleine de grands rendez-vous. Une semaine qui nous rappelle aussi ces tourbis et torbis d'un pape seul sur les parvis de Saint-Pierre face à un monde confiné, éprouvé par la Covid-19. C'était le 27 mars 2020. Mais avant de revisiter la semaine, parlons de ses communications du jour. Le pape a adressé un message aux quelques 500 prêtres institués missionnaires de la Miséricorde venus à Rome pour leur pèlerinage jubilaire. François, qui dit son regret de ne pas les rencontrer comme il aurait souhaité, exprime aux missionnaires de la Miséricorde sa gratitude pour le service qu'ils accomplissent dans l'Église. Vous témoignez du visage paternel de Dieu, infiniment grand dans l'amour, qui appelle chacun à la conversion et nous renouvelle toujours par son pardon, leur a déclaré le Saint-Père. Le pape encourage les ministres de la confession à être attentifs à l'écoute, prêts à l'accueil et constants dans l'accompagnement de ceux qui veulent renouveler leur vie et revenir au Seigneur. Le Saint-Père, qui a aussi envoyé un message à sa béatitude Joanny à l'occasion de son intronisation comme archevêque de Tirana, d'Ourès et de toute l'Albanie, François, en exprimant sa proximité spirituelle à sa béatitude, lui assure de ses prières pour que, lui dit-il, Dieu lui accorde les dons abondants de l'Esprit-Saint pour guider le troupeau qui lui a été confié. Le pape rappelle à l'archevêque l'engagement de son prédécesseur en faveur de la coexistence pacifique d'hommes et femmes appartenant à des églises et à des traditions religieuses différentes et sa contribution à l'amélioration des relations entre nos églises, exprimant sa certitude que sa béatitude suivra son exemple et continuera à encourager le dialogue comme un moyen de surmonter les divisions et de promouvoir la recherche de la pleine communion entre tous les disciples du Christ. Le pape a également adressé un message aux participants au pèlerinage jubilaire de la conférence épiscopale tchèque, leur exprimant aussi son regret de ne pas les rencontrer comme il le désirait. François leur a assuré de sa proximité spirituelle, leur remerciant aussi pour leurs prières. Votre voyage est un signe concret de votre désir de renouveler votre foi, de confirmer votre lien avec le successeur de Pierre et de professer avec joie votre adhésion au Seigneur qui marche toujours avec nous, nous soutient dans nos épreuves et nous appelle à être des témoins de sa paix et de son amour, leur a dit le Saint-Père, rappelant la riche tradition chrétienne de leur terre, illuminée par le témoignage des saints Adalbert, Cyril et Méthode et tant d'autres saints. François qui poursuit donc sa convalescence à la maison Sainte-Marthe. Plus de bulletins médicaux, mais quand même des informations de mise à jour de la salle de presse du Saint-Siège. Son directeur a fait état mardi d'une situation stable et la poursuite des améliorations, signalant la réduction progressive du recours à l'oxygénothérapie de jour. Vendredi, on a appris que la nuit également, le soutien respiratoire par oxygène a été diminué. L'état de santé de François s'améliore donc petit à petit, autant du point de vue respiratoire que de la motricité. Il retrouve aussi progressivement l'usage de la parole. Dans un télégramme envoyé vendredi et signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, le Saint-Père offre des prières pour les âmes des défunts et l'assurance de sa proximité spirituelle à toutes les personnes touchées par la tragédie qu'a connue la Birmanie. François prie également pour que le personnel d'urgence soit soutenu dans les secours aux blessés et aux personnes déplacées par le don divin de la fortitude et de la persévérance. Le séisme qui s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville birmane de Sangaing a été suivi de près par 4 répliques d'une magnitude comprise entre 4,5 et 6,6, causant le décès d'au moins 1000 personnes avec plus de 2000 blessés. Dans sa catéchèse préparée pour l'audience générale prévue mercredi mais annulée en raison de son état de santé, le pape a mis l'accent sur l'expérience de la Samaritaine évoquée dans l'évangile de Jean. Décrivant l'image de Jésus qui se fait faible pour mettre l'autre à son aise, le rassurer, le Saint-Père invite chacun à déposer le poids de son histoire aux pieds du Seigneur, de lui remettre le poids de son passé, car seules les personnes réconciliées peuvent apporter l'évangile. Même si notre histoire semble lourde, compliquée, peut-être même ruinée, nous avons toujours la possibilité de la remettre à Dieu et de recommencer notre chemin, a rassuré les vicaires du Christ. Et pour finir, mardi, le pape François a adressé un message aux participants à l'assemblée plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs qui s'est tenue à Rome du 24 au 28 mars. Tout en exprimant sa gratitude aux membres de cette commission pour leur précieux service durant ces 10 dernières années, le Saint-Père les encourage à enrichir leur travail avec des formations qui éduquent, des contrôles de prévention et une écoute qui redonne la dignité.
Après la semaine du pape, rendons-nous au Nigeria où le père John Ubaechu, prêtre enlevé le dimanche 23 mars, a été libéré. C'est ce qu'a annoncé l'archidiocèse d'Oweri mercredi 26 mars dans une note signée par son chancelier, le père Patrick Mbara. Le père John Ubaechu, curé de la paroisse de la Sainte Famille d'Izombe, avait été enlevé le soir du dimanche 23 mars sur la route de Djemekuru dans la zone d'Oguta, dans l'état d'Imo, dans le sud du Nigeria, alors qu'il se rendait à la retraite annuelle des prêtres. À Saint-Thomé-et-Principe, le secrétariat diocésain pour la catéchèse a récemment organisé une retraite pour les catéchistes de ce diocèse. Un moment de réflexion et de renouveau spirituel à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Le catéchiste pèlerin de l'espérance a été le thème choisi pour cette réflexion à laquelle ont participé des catéchistes de différentes paroisses et qui a été présenté par le père Enildo da Silva Filho, qui a commencé son intervention en rappelant à chaque catéchiste qu'il est chargé d'une expérience personnelle avec Jésus, qu'il est un communicateur par excellence et qu'il est appelé à préparer chaque rencontre catéchétique avec soin et responsabilité. Il a également souligné que le jubilé de l'espérance est un temps particulier de grâce dédié au renouveau spirituel, à la réconciliation et à une profonde expérience de la miséricorde divine.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le groupe armé M23 a conclu vendredi à Goma, ville de l'est de la République démocratique du Congo, qu'il contrôle depuis fin janvier, un accord avec la SADC sur l'évacuation de la force militaire déployée par ce bloc des pays d'Afrique australe. Mi-mars, la communauté de développement d'Afrique australe SADC a mis fin au mandat de cette force régionale, la SAMI-RDC, déployée depuis décembre 2023 pour combattre aux côtés de l'armée de ce pays les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment le M23, qui a conquis de vastes zones depuis qu'il a repris les armes en 2021 contre le gouvernement de Kinshasa. Étaient notamment réunis vendredi à Goma les chefs d'état-major des armées d'Afrique du Sud, de Zambie, du Malawi et de Tanzanie, ainsi que le chef militaire du M23 Sultani Makenga, selon le document conjoint publié à l'issue de la rencontre. Le M23 et la SADC ont donc décidé la mise sur pied d'un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport et la SADC s'est engagée à participer à sa réparation. Un ancien dirigeant guinéen, Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité et gracié vendredi pour raison de santé, est sorti de prison et se trouve dans la capitale Conakry. C'est ce qu'a indiqué samedi l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. À l'issue d'un procès qui avait duré près de 2 ans, Moussa Dadis Camara avait été condamné en 2024 à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité de commandement lors du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, qui a coûté la vie à au moins 156 personnes et des centaines d'autres blessés dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, au moins 109 femmes ont été violées. Un jeune officier de l'armée gambienne a été tué et 4 autres personnes blessées vendredi dans l'explosion d'un réservoir survenu lors d'une opération de ravitaillement dans un camp du commandement de la marine de la capitale Banjul. Une dizaine de personnes ont été tuées par des hommes armés dans le village de Rouwi, au centre nord du Nigeria, une région régulièrement secouée par des violences intercommunautaires. Le père jésuite Adrien Lentiampa Shenge nous introduit à la méditation avec les lectures du quatrième dimanche du temps de carême.
Chers frères et sœurs, le quatrième dimanche de carême est habituellement placé sous les signes de la joie. Et les lectures du jour nous donnent le motif de cette joie. La prévenance, la bonté et la miséricorde de Dieu à notre endroit. Nous pouvons ainsi avancer vers Pâques en sachant que, par sa mort et sa résurrection, le Christ nous manifeste la prévenance et la miséricorde de Dieu. Il enlève sur nous les déshonneurs du péché, puisque, comme le dit la deuxième lecture de ce jour, il n'a pas tenu compte des fautes, il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Et quoi de mieux que la parabole du Fils prodigue pour illustrer ce cœur miséricordieux du Père, qui prend le devant et nous donne de nous réconcilier avec lui. En effet, le Fils prodigue, en exigeant la part d'héritage qui lui serait revenue à la mort du Père, décide d'éliminer de sa vie, de vivre sans lui. Car c'est après la mort des parents que les enfants se partagent l'héritage. Mais lui ne veut pas attendre. Il choisit de se faire sans son Père. Il s'éloigne de sa présence, préférant mener une vie de désordre. Mais malgré cela, le père guettera sans cesse le retour de ses fils et laissera éclater sa joie lorsqu'il reviendra, sans même se souvenir de ce qu'il a fait de ses biens. Il n'hésitera pas à lui faire bon accueil et à manger avec lui. En fait, tout ce que le père attendait pour retrouver la joie, c'est de voir revenir son fils vers lui. Nous aussi, nous sommes invités à faire éclater la joie du Seigneur en revenant vers lui. Pour cela, comme l'enfant prodigue de l'Évangile, faisons le point sur nos vies pour reconnaître combien l'éloignement de la présence de Dieu nous déshumanise. En effet, c'est parce que le fils cadet a reconnu la situation dans laquelle l'a conduit l'éloignement de la maison paternelle qu'il pourra se dire « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Il a reconnu le bonheur qu'il y a de vivre sous le regard prévenant du Père. Le temps de carême, c'est le temps qui nous est donné de réaliser combien de fois nous choisissons de vivre comme si nous étions nous-mêmes notre Dieu et combien ce désordre de nos vies nous fait perdre notre dignité d'homme et de femme créés à son image. Le carême, c'est le temps où chacun, ayant pris conscience du désordre de sa vie, peut dire du fond de son cœur « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Le carême, c'est le temps de répondre à l'appel que saint Paul nous adresse dans la deuxième lecture de ce jour. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous donc, nous préparons à la grande joie de la nuit de Pâques, où nous célébrerons celui qui n'a pas connu le péché, mais que Dieu a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenons justes de la justice même de Dieu. Efforçons-nous en toutes choses de faire éclater la joie de notre Père, car cette joie du Seigneur est notre rempart. Amen.
Invité du jour.
La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est préoccupante. Depuis l'occupation de cette partie du pays par le M23 fin janvier, les efforts pour parvenir à un dialogue conduisant à la paix ne cessent d'augmenter. Pour Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, toutes ces initiatives sont une conjonction d'intérêts en vue de parvenir à une paix durable et ces initiatives exigent une centralisation. On l'écoute.
Je vois plutôt une conjonction d'intérêts qui exige quand même une centralisation pour ne pas se perdre. L'initiative tentée à Luanda et à Qatar, c'est quelque chose qui nous réjouit parce que c'est sur ce point-là que nous n'étions pas compris. Dès qu'on a émis on s'est exprimé sur la nécessité d'un dialogue direct avec l'M23, on nous a traités de tous les maux. L'initiative qui a été prise en Angola par le président Lourenço, dommage qu'il a jeté l'éponge, et au Qatar, je crois que ça nous donne raison. Et ça, c'est une grande satisfaction. Alors, en parlant de les sanctions, bon, ça, de notre point de vue, si vous avez observé, et c'était aussi une des raisons des critiques qu'on a subies, on a condamné la CENCO et l'ECC de ne pas condamner le M23, de ne pas condamner les Rwandais.
Oui, il y a eu ça aussi. Certains ont trouvé que c'était ambigu selon eux.
Voilà.
Qu'il n'y a pas eu de condamnation claire, disent-ils.
Voilà. Pour ceux qui suivent la dynamique sociopolitique de la CENCO, il n'y a rien de suspect. Parce que dans le passé, si vous revisitez les messages de la CENCO, notamment le message d'alerte le pays en danger, je crois que c'est en novembre 2022. Bien avant ça, le cardinal, après une visite de l'Est, il n'a fait que condamner, il n'a fait qu'attirer l'attention sur le danger de la balkanisation. La CENCO a non seulement condamné le Rwanda, l'M23, mais elle a aussi condamné l'hypocrisie et l'indifférence, la complicité de la communauté internationale.
Oui, ça, donc, nous avons lu.
Voilà, ce qu'on nous reproche, on l'a fait. Maintenant, on est dans une autre approche, le dialogue. Père, vous allez condamner quelqu'un, vous êtes mauvais, vous êtes méchant, et puis vous lui dites, venez, on va se parler, ça va marcher. Voilà pourquoi pour nous, dans le contexte actuel, dans le contexte de notre initiative, les sanctions seraient contre-productives. Et nous l'avons expérimenté. Si le M23 a boudé en Angola, c'est parce que la veille,
il y a eu des sanctions.
Je crois que quelque part, c'est la sagesse qui parle dans la CENCO et les CC.
Il y a eu la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Quand on sait qu'il y avait entre eux, en tout cas, une grande distance, est-ce qu'on peut voir que cette rencontre est dans la logique de faciliter les choses?
Ben, je dirais peut-être, et c'est notre souhait, parce que le fait que les deux se parlent, on a regretté l'échec de la rencontre qui était prévue le 15 décembre dernier, mais le fait que les deux se rencontrent, ça peut être vraiment, s'ils sont ouverts, parce que nous avons parlé avec le président Tshisekedi, nous avons parlé avec le président Kagame. Et si ils ont le même souci, tel qu'ils ont changé avec nous, cette rencontre-là peut servir. Mais une question qui se pose, pourquoi à Qatar? Quand on connaît l'implication de Qatar par rapport aux dividendes financiers.
Par rapport au développement.
Voilà,
oui,
et tout.
Oui,
donc
oui.
Là, c'est juste une question. Donc, mais c'est possible. Et voilà pourquoi nous avons salué, et vous avez fait allusion, la jonction de l'initiative de Luanda et de Nairobi avec l'équipe qu'on vient de nommer. Lors de notre passage à Nairobi, le président Ruto nous avait déjà annoncé ce qui est rendu public maintenant. Et comme il a appuyé notre initiative, il a compris que ce que nous faisons serait complémentaire à ce qui sera fait par cette équipe-là. Donc, en toute logique, comme la communauté sous-régionale appuie notre initiative, ils vont nous faciliter les choses à ce niveau-là pour qu'il y ait une jonction entre ce que nous faisons pour renforcer la cohésion interne avec ce que nous sommes appelés à appeler pour renforcer la cohésion au niveau sous-régional.
Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, il répondait aux questions de Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboisloa a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.